Jeux vidéo, actualité de vos jeux préférés.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez Ivasound Studio, bienvenue dans Jeux vidéo, votre nouvelle émission qui porte sur l'actualité du monde du jeu vidéo, donc le monde vidéo ludique. Je suis Jake et pour cette première, je suis accompagné de Yakipon. Salut Yaki.
Salut.
On va commencer à parler des news du Tokyo Game Show, on parlera également du nouveau jeu South Park, de l'actu Blizzard et Riot. On va également évoquer le record de la semaine sur Steam et on va s'attarder un peu sur les news Nintendo. Et pour terminer, on vous parlera des sorties récentes, des jeux, bref, plein de choses. C'est parti! Pour commencer les actus du Tokyo Game Show, ce grand salon japonais aux grandes annonces qui nous offre encore cette année beaucoup d'informations, on commence par Final Fantasy XV, Yakipon.
Oui, alors pour Final Fantasy XV, il a été annoncé que des DLC pouvant alimenter le scénario du jeu arriveraient sous peu. Après, on ne sait pas si c'est un DLC ou plusieurs. Tout simplement parce que, comment dire, étant très partagé sur Final Fantasy XV, en vrai, le scénario n'est pas forcément oufissime. Et le jeu a beaucoup déplu à de grands fans. Et ils essayent, on va dire, de rectifier le tir en offrant du DLC gratuit, ce qui est déjà une bonne chose, mais c'est dommage qu'ils le fassent maintenant et que ça n'ait pas existé avant, quoi. C'est vraiment le point noir des développeurs, c'est qu'ils font des trucs, ils testent chez eux, mais si ça plaît pas, tant pis, enfin, je sais pas. Je me dis que quitte à avoir cette possibilité maintenant, il aurait été mieux de le faire avant, quoi.
Et concernant le contenu de ces DLC, on peut s'attendre à quoi ?
En fait, il y a un DLC qui est dédié à Ignis, et sûrement la suite de ce chapitre va être faite. Il y a d'autres nouveautés qui risquent d'arriver sur l'année prochaine, c'est-à-dire le mode multijoueur reçoit lui aussi un DLC, mais nous allons aussi avoir des scénarios concernant les compagnons de Noctis. Donc sur le coup, on aura un peu plus de background sur les personnages principaux du jeu, ce qui est en soi plus que acceptable et vraiment sympa.
On reste au Japon, et notamment avec Square Enix, qui ont annoncé un nouveau jeu d'action en TPS, un third person shooter, qui se déroulera dans un univers très sombre, très post-apocalyptique, donc il s'agit de Left Alive. C'est un jeu d'action où la survie sera un élément primordial du gameplay. C'est développé notamment par Yoji Shinkawa, qui a travaillé sur Metal Gear, ou encore Takayuki Yanase, qui était sur le projet de Xenoblade Chronicles 2. Et pour parler un peu de l'univers de ce jeu, Left Alive, ça se déroule dans le même monde que la série des Front Mission. Le joueur sera plongé en 2127 en Russie et pourra jouer trois personnages différents. C'est un jeu qui sera dans un monde semi-ouvert. Le joueur sera libre de suivre les objectifs principaux ou de prendre son temps pour explorer ce monde. Actuellement, Square Enix pense avoir réalisé plus de la moitié du travail sur ce jeu, donc il reste encore beaucoup à faire. Et des nouvelles annonces seront donc à suivre dans les mois à venir. On quitte le Japon et on se rend à South Park.
Oui, alors pour les infos South Park, en ce moment on a vraiment beaucoup de choses qui sont données. C'est leaké petit à petit. Donc on se retrouve avec une vidéo du jeu concernant les gay fish. C'est un épisode assez bizarre, on va dire, dans l'univers de South Park. Et on va se retrouver donc avec un mini-jeu à la Flappy Bird, avec une licorne qui pète des arcs-en-ciel, et bon, on reste dans un univers assez South Park qui peut être parfois très immature, mais complètement décalé, ce qui en fait vraiment quelque chose de plutôt drôle et sympathique quand même. Après, nous avons eu le gros débat concernant les VF du jeu, vu que les acteurs ne veulent tout simplement plus le faire, ce qui est vraiment dommage. Et donc, je conseille tout le monde de jouer au jeu en version originale sous-titrée français. Sauf si certains se sentent bien à l'aise en anglais et donc qui poursuivent leur aventure en anglais parfaitement. Concernant autre chose aussi sur South Park, nous avons la difficulté du jeu qui peut faire polémique mais que je trouve est assez importante. C'est-à-dire que le jeu est facile si vous sélectionnez un personnage de type caucasien blanc, en gros. Et le jeu est beaucoup plus compliqué si vous prenez quelqu'un de typé noir et africain, quoi. C'est très polémique parce que ben on remet un point sur ce qui est racisme et et différences de culture, mais d'un côté, je me dis pourquoi pas, parce que ça risque de sensibiliser les jeunes un peu plus sur ce point-là. Et d'un côté, enfin, c'est bête de dire ça, mais les stéréotypes, y a certains trucs qui pourront peut-être être drôles, c'est-à-dire que si on sélectionne un personnage en difficile, on verra que Cartman sera beaucoup plus agressif envers de type noir, dira-t-on, et je pense que ça sera vraiment une autre expérience, quoi, vu qu'on gagnera moins d'argent, vu que... Enfin, tous les stéréotypes et tout ce qui arrive dans la vraie vie actuelle vont se répercuter dans le jeu, ce qui risque, comme je l'ai dit, de peut-être sensibiliser les jeunes par rapport à ça, et on verra. Là, sur ce coup-là, on verra.
Donc en gros, c'est pas de l'humour déplacé juste pour faire de l'humour, il y a vraiment une sensibilisation derrière pour faire comprendre aux gens que quand on est de couleur foncée, on a plus de difficultés dans la vie. C'est ça qu'ils veulent dire en fait.
Ouais, je pense qu'ils veulent vraiment rebondir là-dessus. Vu que déjà, je trouve que South Park, ils essayent vraiment de coller par rapport à l'actualité du monde, au temps présent. C'est-à-dire que la dernière saison des épisodes racontait l'élection présidentielle de Trump, et ils avaient vraiment fait tous les épisodes pour que Hillary Clinton gagne. Et en fait, ils se sont retrouvés plutôt bloqués dans le fait que, ben, que Monsieur Trump ait gagné. Donc ils ont dû tout refaire à la va-vite. Enfin, pas forcément à la va-vite, mais on va dire dans des délais assez courts, pour essayer de finir la saison en beauté. Mais oui, je pense qu'ils essayent du mieux qu'ils peuvent, de dénoncer les choses comme ils peuvent et de mettre ça un peu sur le ton de l'humour, parce que ben, je pense qu'il faut en rire et pas forcément en faire des guerres inutiles où les gens se foutent sur la gueule juste pour un principe de ouais, toi t'es blanc, toi t'es noir, enfin, je trouve ça complètement con.
On reste aux US, on va parler de l'actu de Blizzard. Et avant toute chose, vous pouvez noter, vous pouvez d'ores et déjà noter et vous procurer votre billet virtuel pour la BlizzCon qui se déroulera les 3 et 4 novembre prochains. Mais ça, on vous en parlera en temps voulu. En attendant, que s'est-il passé récemment dans le Nexus d'Heroes of the Storm?
Oula, tellement de modifications encore une fois. Je pense que dans Heroes of the Storm, ils ne savent pas forcément bien, comment dire, équilibrer leur héros. C'est dommage parce que dès qu'ils sortent un héros, il est soit complètement cassé, soit complètement inutile. Ce qui est dommage vu qu'ils ont quand même des royaumes de test et qu'ils peuvent faire ça avant. Le souci, c'est que on se retrouve avec des personnages qui sortent, qui sont plutôt bons, qui se font nerfer parce que ben, ils sont trop bons. Et ensuite, qui peuvent revenir sur le devant de la scène comme Cassia. Cassia est sortie il y a un bon moment maintenant, et en fait, elle est très agressive. C'est un très bon assassin qui a un bon set de sorts à elle. Le souci, c'est que elle faisait trop de dégâts, donc ils l'ont nerfée. Et là, elle revient un peu sur le devant de la scène avec des dégâts vraiment augmentés. Mais c'est vraiment bien augmenté. C'est-à-dire qu'on passe par exemple, aux dégâts sur les cibles aveuglées de 15 à 20%, ce qui est quand même assez conséquent. Les attaques de base sont augmentées aussi, et on se retrouve avec des talents supprimés parce que certains étaient pas forcément adéquats et peut-être un peu inutiles, personne ne les prenait. Certains sont déplacés et certains donc sont encore augmentés. Mais bon, ça, on verra ce que ça donne après dans le jeu. On a droit aussi à Chromie. Enfin, là aussi, je suis un peu énervé, c'est-à-dire que il y a une quête avec Chromie qui dit que si on touche 80 héros avec le souffle de sable, eh bien on débloque une nouvelle amélioration de ce sort. Seulement, ça passe de 80 à 60 pour finir cette quête, et je trouve ça dommage parce que Chromie est un personnage qui est très fort et qui demande énormément de talent pour la maîtriser et beaucoup d'anticipation. Ok, ça fait beaucoup de points, on va dire, à maîtriser pour vraiment jouer Chromie à la perfection, mais je trouve que de baisser la quête, ça va faire un bordel monstre, parce que Chromie, elle fait ultra mal, beaucoup de gens la jouent, et donc Blizzard nous dit que seuls 40% des joueurs parvenaient à débloquer l'écho de Chromie. Sauf que, ben, quand t'es bon, t'y arrives, quand t'es pas bon, t'y arrives pas, et donc ceux qui sont pas bons, ils râlent. Voilà, ça m'énerve. Quitte à essayer de faire un jeu qui demande une progression avec des classements bronze, argent, doré, tout ça, quitte à faire des classements, ben laissez les quêtes comme elles sont et ça apprendra aux gens à peut-être améliorer leur façon de jouer. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, par rapport à ce que je disais, que les héros étaient trop forts et qu'ils méritaient parfois... parfois, bon, là, ok, c'est complètement... comment dire, c'est complètement justifié. Kel'Thuzad se fait vraiment nerfer la tronche, c'est-à-dire que les coûts de mana sont augmentés. Déjà que je trouve que, bon, ok, c'est un mage qui doit caster tous ses sorts pour faire énormément de dégâts, c'est un énorme burster. Ben là, on se retrouve avec moins de mana, donc peut-être moins de sorts, et je pense que... je sais pas trop, en fait. Il aura peut-être du mal à s'en sortir s'il se fait all-in. C'est-à-dire, si les gens lui rentrent dedans, je sais pas comment il va se défendre avec si peu de mana. Mais bon, ça aussi, je pense qu'on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, des personnages comme le boucher, qui sont très agréables. Quand il y a un boucher en face, généralement, c'est la mort. Hein. Et là, en fait, ils se sont dit, bon, ben, on va augmenter les points de vie du boucher et sa régénération à haut niveau. C'est-à-dire quand on arrive dans les niveaux 20 du jeu. Je sais pas si c'est dommage. Parce que, on va dire que les vrais joueurs commenceront à focus le boucher parce que ben, il faut l'arrêter. C'est un personnage très très fort qui se régénère à une vitesse monstrueuse. Donc sur le côté, c'est compliqué. Sur le côté des gens haut gradés, c'est plus facile pour eux de le gérer, ou c'est plus facile de le jouer vu qu'il aura plus de points de vie et donc il sera beaucoup plus viable, on va dire. Mais pour les petits joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer contre le boucher, ça va devenir vraiment une véritable boucherie. Ça va être très drôle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a deux trois changements sur Thrall, Luizel et Morales. Après, c'est vraiment des choses assez mineures comme Stukov et Tyrande, qui peuvent juste, on va dire, modifier les talents que l'on peut prendre sur certains niveaux. Ça promet du lourd pour Tyrande, mais bon, à voir encore dans le jeu comment ça peut se faire. Shen aussi reçoit une petite modification parce que ce tank est assez compliqué à jouer, je trouve. Il a pas forcément beaucoup de contrôle et donc son équipe peut vraiment en pâtir de sa présence, ce qui est vraiment dommage, mais bon, à voir comment ça se dégoupille aussi. Deaka reçoit 2-3 petits points, de petits nerfs, on dira, genre vraiment légers, donc ça veut dire qu'ils arrivent enfin à croire au pouvoir de Deaka, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, Garrosh, qui lui aussi, vu qu'il est sorti dernièrement, se reçoit un petit nerf dans la tête. Bon, on va dire léger, mais ça restera tout de même viable. Voilà.
On reste dans Heroes of the Storm et on va parler de ce qui a été annoncé. On a deux héros qui sont annoncés, une nouvelle map, dont un héros dont pour l'instant on n'a pas encore trop de détails, mais l'autre qui est bien détaillé.
Oui, c'est vrai. Anna va débarquer enfin sur Volskaya. Donc en fait, nous avons un nouveau héros et une nouvelle map, pour l'instant d'annoncer bien comme il faut. C'est-à-dire que Volskaya va être assez compliqué à prendre en main comme map. Ça va être de la capture de points assez bizarre. Je vous laisse le découvrir en profondeur. Et donc nous retrouvons notre chère et tendre Anna, qui est donc la snipeuse du désert. Et nous avons enfin son nouveau set d'attaque, ce qui est plutôt sympathique, mais personnellement, je trouve que c'est un personnage fait pour les gros joueurs. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup compter sur le skill shot et sur le placement du personnage. C'est-à-dire que si elle est dans son coin tranquille, tout va bien, mais dès qu'elle va commencer à se faire focus par l'équipe ennemie, ça risque d'être compliqué. Certes, elle a quand même un kit de défense comme la fléchette qui fait faire dodo et la grenade qui permet de se heal, mais je pense qu'elle restera faiblarde par rapport aux attaques ennemies, et qu'il faudra donc qu'elle se place parfaitement sur le terrain. Concernant ses ultis, donc nous retrouvons le nano boost comme dans Overwatch, ce qui fait plaisir en soi, mais nous avons aussi un deuxième ulti qui permet à Anna de pouvoir sniper de l'autre bout de l'univers, on va dire ça comme ça, et ça sera des shots qui permettront soit de heal ses alliés, soit de faire des dégâts aux ennemis. Donc en soi, ça peut être sympa, mais je pense que c'est vraiment très 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 occasionnel, et il faudra quand même garder le nano boost, parce que si on a confiance en ses alliés et qu'on a vraiment un mec qui gère les dégâts comme il faut, le Nano Boost sera vraiment plus que parfait, sachant que le Nano Boost réduit les cooldowns et rajoute du mana aux gens. Donc on va dire que vos amis mages seront très heureux de recevoir un Nano Boost, autant que les mecs qui sont au corps à corps et donc qui pourront dasher dans tous les sens et faire leur capacité qui assassine, telle que Valyra, dans des secondes assez courtes. Concernant l'autre personnage qui a été annoncé, mais pour l'instant dont on n'a pas forcément de nouvelles, c'est Chacal. Chacal qui va faire son arrivée sur Heroes of the Storm, et pour l'instant on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles.
Et on vous tiendra au courant dès qu'on en aura, et on reste justement avec Chacal. Mais du côté Overwatch cette fois-ci, on a une nouvelle map d'escorte qui est sortie récemment, il s'agit de Junkertown, donc c'est la ville d'origine de Chacal et de Chopper. Elle se situe dans le désert hostile d'Australie et elle porte un décor type post-apocalyptique dont le décor est même plutôt très bien détaillé, je trouve. Côté changement dans Overwatch, plutôt quelque chose de général. Donc on a des changements dans le mode de jeu héros mystère. Les joueurs ne peuvent plus se tuer volontairement pour changer de personnage en fait. Donc maintenant dès qu'on se tue volontairement, on reste avec le même héros qu'on a de base. Mais la capacité ultime sera réinitialisée. Cela permet donc aux joueurs de ne plus choisir leur héros parce qu'on est quand même dans un mode de jeu aléatoire. Côté correctif, on a D.Va qui dispose d'une nouvelle capacité, ce sont des micro-missiles qui explosent à l'impact et infligent des dégâts dans une zone limitée autour de chaque explosion. Également, la jauge d'énergie de sa matrice défensive se vide désormais deux fois plus vite, mais elle dispose d'une régène d'énergie par seconde un tout petit peu augmentée. A noter maintenant aussi que D.Va peut désormais utiliser ses fusions canons en plein vol, et ça peut être très intéressant. Ange ne possède plus comme ultime la résurrection de ses coéquipiers, en effet ça devient une habilité commune, mais elle ne pourra raise maintenant qu'un seul de ses coéquipiers à la fois dans une zone très limitée. Sa nouvelle capacité ultime s'appelle Valkyrie, et ça lui permet de tout lui renforcer pendant quelques secondes, que ce soit ses capacités, ses armes, mais ça lui permet également de voler librement et plus rapidement pendant ce laps de temps de son ultime. Reinhardt a également un petit changement qui n'est pas anodin. Lorsque vous maintenez son tir principal, alors que le bouclier est actif, vous pouvez maintenant orienter la caméra. Ça vous permet d'avoir une meilleure perception de l'environnement lors de l'utilisation du bouclier. Il y a aussi de nombreux autres correctifs et debugs qui sont en place, mais ça on vous renvoie vers les derniers patch notes. On change maintenant d'univers, on sera en Runeterra. Que se passe-t-il donc du côté de chez League of Legends ?
Alors, on a reçu dernièrement des nouvelles de Evelynn. Evelynn, un personnage qui a été vraiment oublié, comme beaucoup de personnages dans League of Legends, et qui va donc recevoir un rework des plus sexy, dira-t-on. On va dire que le design du personnage a été linké. Deux, trois habilités aussi, mais bon, on n'a pas forcément de détails dessus. C'est-à-dire qu'on a vu les visuels des sorts qui sont, on va dire, connus. Certains non. On a l'air d'avoir une passive qui forme un joli petit cœur sur les têtes des gens. Donc, à voir, hein. On attend des nouvelles d'Evelynn qui risque d'être viable à nouveau, ce qui nous fait plaisir. Concernant les gardiens des étoiles, ben malheureusement, le mode est terminé. Pourtant, ce mode était vraiment très très cool. Ça fait du bien, en fait, de voir un MOBA qui propose un peu de PvE. Ça fait toujours du bien. Ça existe dans d'autres MOBA, je sais. Mais LOL, ça faisait longtemps qu'ils nous en avaient pas donné, et ça nous fait plaisir. Concernant les Gardiens des Étoiles, concrètement, je trouve que c'est quand même assez drôle de voir les personnages de League of Legends en mode Magical Girls. Surtout pour Ezreal, qui est une très belle Magical Girls. Donc ouais, l'event était plutôt sympa. Le seul point noir que j'aurais à donner, c'est que pour faire les quêtes des Magical Girls, il fallait avoir 4 amis plutôt. Ce qui est bien et pas bien. Je peux comprendre le fait que, voilà, vous êtes avec 4 potes, donc vous êtes 5 Magical Girls, vous êtes soudés, vous vous aimez, gna gna gna. Mais si vous vouliez faire les quêtes sans vos amis, ben c'était pas forcément faisable. Enfin, il y en avait une ou deux. Oh, allez, deux ou trois, plutôt, pour être plus correct. Mais enfin, c'est dommage. Après, bon, le mode de jeu difficile était vraiment difficile. Il fallait vraiment rester concentré, faire ses bonnes actions quand il fallait. Et le boss était très très hard, il faut le dire. Concernant donc Evelynn de nouveau, apparemment League of Legends a signé son année sur l'année du changement, c'est-à-dire que Urgot a reçu un énorme rework qui est plutôt sympathique je trouve, parce que là aussi c'était un personnage oublié. Maintenant on a Evelynn, on a eu Zac aussi dernièrement, bon qui était un personnage on va dire plus récent que Evelynn et Urgot, mais qui a reçu un rework assez intéressant. Donc je me dis, s'ils commencent à faire attention aux personnages qui sont pseudo-morts, comme Taric qui avait reçu un rework il y a longtemps mais qui reste pas forcément viable, Rammus pourrait peut-être avoir un rework, même s'il est pseudo-viable, mais il est pas souvent pick parce qu'il peut être faible. Nunu, ça serait bien qu'il fasse quelque chose sur ce personnage, parce que le pauvre, il ne sert vraiment à rien. Kindred aussi est tombée dans les oubliettes, même si elle est, on va dire, nouvelle sur les champs de la justice. C'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait à Kindred, c'est qu'ils ont sorti un personnage, il était très fort, et ils l'ont tué. Kennen aussi mériterait 2-3 petites modifications. Parce que certes, ces persos reviennent grâce aux nouveaux objets, mais les habilités des personnages sont pas forcément... Enfin, je trouve qu'elles mériteraient d'être un petit peu changées, quoi. Galio aussi avait reçu un changement dernièrement qui était plutôt sympathique. Et Yorick aussi avait reçu un changement qui était des plus intéressants. Donc, à voir ce que League of Legends nous promet avec des changements. On verra ça plus tard, je pense. On vous tient au courant par rapport aux nouveautés sur League of Legends.
On change totalement d'univers et de monde, tu voulais nous parler d'un jeu qui te tenait à cœur.
Oui, alors, si je m'appelle Yakipon, c'est pas pour rien, c'est pour un énorme coup de cœur à Patapon, un vieux jeu sur PlayStation Portable qui a ravi petits et grands. C'était un jeu de rythme assez particulier où il fallait entonner des chants de guerre pour pouvoir battre des ennemis. Et en fait, si je vous parle de Patapon, c'est qu'il va y avoir une version remastered sur le PlayStation 4. Ça me fait plaisir et pas plaisir en même temps. C'est-à-dire qu'ils sortent Patapon 1, les graphismes sont pas tant changés que ça. Ce qui peut piquer sur un écran 4K, sans déconner. Après, bon, ils le ressortent, il est pas forcément très cher, mais... Pourquoi ne pas faire un pack dans ce cas-là, sortir Patapon 1, 2 et 3 en même temps? Et dans ce cas-là, faire un multijoueur de Patapon 3 beaucoup plus sympathique qu'il ne l'était avant, et... Enfin, ça peut ouvrir le champ des possibles, je trouve, mais bon. Après, à voir comment ça se dégoupille là aussi, et à voir si les gens vont se pencher sur Patapon, qui est quand même un jeu très, très, très atypique.
Pour ma part, je tenais à évoquer le jeu qui fait un énorme succès en ce moment. Il s'agit de PlayerUnknown's Battlegrounds, qui a explosé des records sur Steam, c'est des records inimaginables. Et pourtant, il a encore un early access, et le jeu a réuni plus de 1,5 million de joueurs en simultané très récemment. C'est un record absolu, c'est énorme, surtout pour un indé, et dont il se classe en tête des ventes Steam ce lundi 25 septembre. Dans ce classement des ventes Steam, il y en a un jeu qui est toujours là. Il est là, il est régulier, c'est Counter-Strike Global Offensive, qui est encore et toujours dans ce classement des meilleures ventes avec une belle 4ème place. On va maintenant s'attarder sur les actus Nintendo, et on commence par Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle. Et Yakipon, tu voulais nous en parler quelques mots parce qu'apparemment c'est une belle surprise.
Oui, alors j'étais très très réticent par rapport à ce jeu, vu que C'est moche de dire ça, mais dès qu'on entend les lapins crétins, généralement on grince des dents. C'est pas forcément une marque de sûreté. Même si Ubisoft fait de très bons titres avec Rayman et les lapins crétins, c'était vraiment plutôt sympathique, même s'ils sont insupportables, ces lapins. Mais là, mélanger Mario aux lapins crétins, c'était une hérésie pour certains. J'en faisais partie, je le cache pas. Pour moi, je ne voulais pas que ça arrive, et je me suis tenté pour l'essayer, et là, la grosse claque, quoi. C'est-à-dire que même si l'univers est un peu, comment dire, assez drôle avec les lapins qui font des conneries un peu partout, le jeu en vaut la peine. C'est un énorme XCOM, en fait. C'est un jeu de tir très, très stratégique. Enfin, un jeu de tir, c'est bizarre. C'est, on va dire, comme un Fire Emblem, mais avec des flingues. C'est-à-dire qu'il faut savoir se placer, il faut utiliser des compétences spéciales. Enfin, c'est vraiment un jeu où il faut réfléchir, ce qui est vraiment pas évident quand on entend le mot lapin crétin. Et comment dire, le scénario est plutôt basique comme dans tous les Mario, mais il fait son taf. Le jeu est vraiment compliqué sur certains endroits, il y a des boss, on retrouve tout ce qu'on aime en fait au final, et donc c'était une grosse claque et une énorme surprise, donc je suis plutôt content de dire que Mario et The Lapin Crétin Kingdom Battle est un très bon jeu. Et apparemment je ne suis pas le seul à le penser, il a reçu de très bonnes notes telles que 17 sur 20 sur jeuxvideo.com, pardon, ce qui est quand même une très bonne note,
une
très belle surprise.
Il y a quelques jours, Metroid Samus Return est sorti sur 3DS, tu te l'es procuré, tu y as joué, tu l'as quasi terminé, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, je vais vous en parler. Alors, généralement, je suis un énorme grand fan de la série Metroid, et dès qu'il y en a un qui sort, ben je le dévore, mais vraiment, je le dévore. Et Metroid Samus Returns est un très très bon jeu, c'est-à-dire que le jeu Game Boy était plutôt sympa, mais bon, ça reste un jeu Game Boy, c'est-à-dire si t'aimes les écrans verts avec des teintes verdâtres, que tu aimes bien avoir juste 2-3 boutons, ben tu es content. Mais là, on va dire que le remake, parce que c'est complètement un remake, est assez intéressant. C'est-à-dire que nous avons une nouvelle patte graphique, évidemment, nous allons pas rester sur des graphismes 2D un peu pourri de la Game Boy, on va dire. Certains diront pourri, certains diront c'est rétro, c'est normal. Mais non, le jeu en soi est plutôt intéressant. Le seul bémol que j'ai à donner dessus, c'est qu'on nous donne nos améliorations vraiment trop vite. Les boss n'existent pas dans ce jeu comme dans les autres Metroid. C'est-à-dire que on trouve un boss, il nous donne un pouvoir ou pas. Ou alors on trouve un pouvoir juste avant pour tuer ce boss-là. Et enfin, le genre Metroidvania est un peu cassé là-dessus. C'est-à-dire que on nous donne limite nos améliorations comme si c'était des cadeaux. On les trouve genre, on fait 2 mètres, on en trouve une nouvelle. Et sur le coup, enfin, j'étais pas forcément content de ce constat-là. Après, il existe 4 nouvelles capacités qui n'existaient pas avant dans les Metroid. Les capacités Aeon, qui demandent plus de background, je pense, et qui demandent peut-être d'être reporté à plus tard, c'est-à-dire dans le prochain Metroid, pourquoi ne pas avoir les compétences Aeon, c'est-à-dire dans la chronologie évidemment, vu que Metroid c'est une énorme chronologie comme Zelda, enfin c'est un bordel sans nom, on le sait tous. Mais ouais, pour finir sur Metroid Samus Returns, c'est un très bon remake, un peu court à mon goût, mais bon, ça je pense que c'est du fait que je suis habitué à faire des Metroid et donc j'avance un peu vite. Mais ouais, je suis plutôt content de Metroid Samus Return. À part peut-être le prix qui est un peu excessif par rapport au reste du jeu, mais bon, ça c'est un autre débat.
On reste sur la 3DS avec Game Freak et Nintendo qui nous ont donc réédité Pokémon Or et Argent, qui sont dispo sur l'eShop depuis quelques jours là. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, il vous est possible de vous aventurer une nouvelle fois dans la région de Johto. À noter que si vous achetez Pokémon Or et Argent sur l'eShop ou via code de téléchargement, peu importe, vous pouvez récupérer un code qui vous permet d'avoir Celebi. Et ce code, vous l'enregistrez sur Pokémon Lune et Soleil. Ça vous fait toujours un Pokémon en plus à enregistrer sur le Pokédex. On reste dans l'univers Nintendo, mais on passe sur mobile cette fois-ci avec Super Mario Run. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. C'est ce jeu donc qui va vous proposer sous peu une nouvelle grosse mise à jour qui est donc très très enrichie. On va avoir un nouveau monde qui sera le World Star, le monde étoile, qui va comporter 9 niveaux avec des nouveaux ennemis et un nouveau gameplay qui va changer. Donc là on attend de nouvelles informations, mais ça peut être intéressant. On va également avoir un nouveau mode de jeu qui sera le mode Remix 10, qui va refaire à sa sauce différentes sections des mondes existants, qui ça permettra aussi de gagner de nouveaux objets. Donc ça également, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour la curiosité. Et enfin, on aura un nouveau personnage jouable, qui sera la princesse Daisy, qu'on ne présente plus.
Pour terminer, les sorties des jeux, Steam World Dig 2 est disponible depuis quelques jours sur Switch, PC, PS4 et PS Vita. On y incarne un nouveau Steambot, une vieille connaissance, qui doit creuser pour trouver des richesses et explorer le monde souterrain, le tout dans un style très Metroidvania quand même.
Taganronpa V3 Killing Harmony est sorti ce 26 septembre sur PC. Ce jeu se place directement à la suite de la série, avec une toute nouvelle histoire, une nouvelle enquête à mener dans une nouvelle école. Vous y découvrirez de nouveaux personnages et des environnements inédits.
Yo-Kai Watch 2 Spectre Psychique est dispo sur la 3DS depuis ce vendredi 29 septembre. Cette nouvelle version du jeu propose de nouveaux fantômes et de nouveaux monstres à recruter, ainsi que de nouvelles quêtes et boss inédits.
FIFA 18 est également sorti ce vendredi. La célèbre série de simulation de football revient comme chaque automne avec un nouveau mode aventure qui a été revu en profondeur et avec une grosse nouveauté, l'accès au championnat chinois qui fait son apparition pour la toute première fois.
On repart à la quête au trésor avec One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition qui est disponible depuis ce vendredi sur la Switch.
Voilà, c'est tout pour cette semaine de notre côté. On n'a bien sûr pas tout évoqué. On vous laisse lire la presse spécialisée pour tout le reste. Et on vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission jeux vidéo. En attendant, continuez à suivre Ivasan Studio. A très bientôt.
Ciao, ciao.
Réécoutez ce programme en podcast sur notre site ivasanstudio.com.